Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediapart, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre collection La Révolution Féministe. Du Maroc au Yémen, en passant par la Tunisie, l'Égypte et bien d'autres pays du Maghreb et du Moyen-Orient, les femmes sont mobilisées dans de multiples combats. Pour l'égalité des sexes, contre le patriarcat, la domination masculine, contre l'oppression des régimes en place. La décennie qui vient de s'écouler en témoigne. Les femmes ont été en première ligne des révolutions arabes. Mais quel a été l'apport, l'impact de ces soulèvements populaires sur leur lutte, sur leur statut, sur les rapports de genre? On en parle avec mes trois invités. Bonjour, Shahinaz Abdel-Salam.
Bonjour.
Vous êtes une militante féministe égyptienne. Vous étiez aux avant-postes de la contestation qui a déchu Hosni Moubarak en février 2011. C'était il y a 10 ans. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui est édité chez Michel Lafon, « Égypte, les débuts de la liberté ». Florie Bavard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante, préparez une thèse qui s'intitule « Corps, dénudement et représentation en Égypte, 1860-2014 ». Vous avez réalisé un mémoire sur les blogueuses égyptiennes engagées dans la révolution de 2011 et vous vous intéressez à la dimension politique des corps. Vous contribuez à un livre qui va bientôt sortir, « Le genre en révolution », qui est coordonné par l'une de nos invitées, la troisième invitée. Bonjour Abir Krefa.
Bonjour.
Alors Abir, vous êtes en direct de Lyon. Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'université Lyon 2. Vous avez publié plusieurs ouvrages, je vais en citer deux, « Écrit, genre et autorité, enquête en Tunisie », c'était en 2019. Et vous avez aussi coécrit l'ouvrage qui va nous intéresser aujourd'hui, « Genre et féminisme au Moyen-Orient et au Maghreb », c'était aux éditions Amsterdam, il est paru l'an dernier. On va se concentrer sur deux révolutions en particulier, deux révolutions que vous connaissez bien, la révolution égyptienne et la révolution tunisienne, aussi parce que les recherches qui mobilisent une approche des révolutions par le genre sont encore très rares. Je propose de commencer par un extrait de votre web-documentaire, Florie, parce que je ne l'ai pas dit, mais vous avez réalisé un web-documentaire, « Womanhood, un kaléidoscope égyptien ». C'était en 2014, 3 ans après la chute de Moubarak. Vous avez interrogé une quinzaine de femmes égyptiennes après l'arrivée au pouvoir du maréchal Sisi. On regarde un extrait.
When people ask me, so are women liberated now in the revolution? Do you as a woman feel that you earned your space in public life? And these ridiculous questions keep on happening.
In the West, it's all about the exterior thing that they can see. They are just always about veil, for example.
Hey.
We're struck by this, that in many cities, when Christian and Jewish women learn that Muslim women, women of cover, were afraid of going out of their homes alone, that they went shopping with them.
It's really offensive. I feel like it should be come from the inside, because we are the one who are aware of our complexity of our society. We cannot even explain it. We just feel it. We just live it.
Shahinaz, vous êtes l'un des visages de ce panel de sororité post-révolutionnaire. Vous témoignez dans le web-documentaire de Florie d'un ras-le-bol d'être en permanence renvoyé à des stéréotypes par l'Occident. Aujourd'hui encore, le monde occidental écarquille les yeux, comme si c'était exceptionnel que les femmes arabes berbères participent aux révolutions, alors qu'elles n'ont pas attendu les révolutions pour se mobiliser et pour occuper le champ contestataire et politique. Ça vient d'où? C'est de l'ignorance? C'est le filtre orientaliste?
Moi, je ne sais pas trop ça vient d'où, mais c'est vrai qu'au début, il y a 10 ans, après la Révolution, c'était vraiment oui. C'était une question qui était posée tout le temps. J'ai même une personne qui m'a dit « Ah oui, vous avez vu la Révolution française, donc vous avez fait la même, en fait, c'était une copie. » Mais j'ai dit « Enfin, la Révolution, c'est humain, c'est pas français, c'est pas égyptien, c'est pour tout le monde. L'être humain, quand il est oppressé, opprimé, il révolte, quoi. C'est normal, quoi. C'est un truc normal. » Donc oui, c'est vrai que c'était assez présent. Aujourd'hui, franchement, après 10 ans, je m'en fous. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, je m'en fous vraiment. Je sais ce qu'on fait, je sais où on est. Je sais que, par exemple, les femmes égyptiennes, elles ont lutté, je dis même depuis l'époque des pharaons. Hein. Donc voilà, c'est un truc dans l'histoire. Et ça change rien qu'ils disent ce qu'ils veulent. Enfin, alors, je m'en fous, quoi.
Florie, vous avez beaucoup travaillé pour déconstruire ces stéréotypes. On le voit dans votre web documentaire. Il y a deux représentations qui reviennent. Alors, celle qui s'inscrit dans une histoire plus longue de la femme arabe opprimée, victime. Et puis, celle qui est apparue avec les révolutions, celle de l'activiste émancipé qui, pour être panthéonisée en Occident, doit idéalement ne pas porter de voile, de foulard, de hijab, idéalement aussi ne pas parler arabe. C'est quoi? C'est l'orientalisme web 2.0?
En tous les cas, oui, on peut parler d'orientalisme 2.0. C'est un cadrage partiel, sélectif, qui vise à mettre en avant des personnes, comme vous disiez, souvent anglophones, utilisant un vocabulaire facilement entendable, compréhensible et lisible. Et ces cadrages-là, en fait, ont tendance à éclipser la pluralité des discours qui existent féminins, féministes, sur ces questions de genre. Cette image de la jeune rebelle moderne, connectée, blogueuse, empêche, en fait, d'entendre la diversité des narrations qui existent et des façons de vivre et d'incarner la révolution. Et on voit que cette image un peu binaire de femme tantôt victime, comme vous le disiez, qui est une image qui préexiste à la révolution, et la deuxième image, cette image de femme rebelle, jeune, connectée, qui serait les porte-parole, en fait, des opprimés qui n'ont pas cette chance. C'est une narration qui est encore très présente aujourd'hui dans les médias, dans les représentations, parfois dans les discours politiques. Et c'est aussi face à ces images-là que les femmes en Égypte doivent arriver à faire entendre dans les médias en Occident leur discours. C'est un des défis, j'ai l'impression, parfois, pour atteindre de la diversité des représentations, en fait.
Venons-en au cœur de notre sujet. Les révolutions arabes ont durablement bousculé les questions de genre et de féminisme. Est-ce que vous pouvez, Habir, nous préciser les principaux apports des révolutions arabes ?
Alors, s'agissant des questions de genre et de féminisme, je pense que les révolutions ont eu plusieurs effets. D'abord, pendant les conjonctures révolutionnaires elles-mêmes, on a vu un certain nombre de pratiques inhabituelles en conjoncture ordinaire. Le fait, par exemple, que des femmes et des hommes co-occupent des espaces urbains la nuit. Un certain nombre de grandes places publiques ont été occupées simultanément par des hommes et des femmes. La place Tahrir, la place de la Perle à Manama au Bahreïn, la place de la Qasba à Tunis, mais aussi les sièges des autorités locales dans beaucoup de régions qui ont été du coup moins diffusées. On a vu aussi d'innombrables femmes de différentes générations manifester la nuit, des petites filles sur les épaules de leurs parents. Et tout cela a forgé, je pense, les représentations de la génération en particulier qui était adolescents et jeunes adultes au moment des révolutions, donc qui fait l'apprentissage du militantisme et de l'action collective dans un contexte d'ouverture considérable de l'espace des possibles. Et de politisation aussi extrême des questions de genre et de sexualité. On débat sur les législations, mais aussi sur ce que doivent être les relations entre les hommes et les femmes dans les espaces privés. Le harcèlement sexuel au Caire a fait l'objet d'une grande dénonciation. Des femmes se sont organisées.
Comment les révolutions ont favorisé la création de collectifs féministes ? Florie, vous avez travaillé là-dessus ?
J'ai eu la chance de pouvoir travailler là-dessus et rencontrer des militantes et en fait des artistes, des membres de différents types de collectifs, pas seulement politiques explicitement. On sent qu'au lendemain de la révolution, il y a une libération de la parole, d'une part, et aussi l'essor de partis pendant un premier temps, au lendemain de la révolution, portés par des femmes, aussi d'associations qui parfois préexistaient la révolution, mais ont eu une nouvelle visibilité à ce moment-là. Et c'est un petit peu aussi à travers les questions qu'elles ont mis au devant de la scène que les choses ont évolué dans le lendemain de la révolution. Vous parlez du harcèlement de rue. Il y a aussi des projets qui, par leur format novateur, ont permis de faire entendre ces questions. Je pense par exemple au projet de storytelling de Boussy, où des femmes sont amenées à monter sur scène pour parler de la politisation de leur corps et de leur expérience vécue. Donc on voit aussi une pluralité des façons de faire entendre les questions et les luttes en cours. Et c'est aussi ça la richesse de ce moment post-révolutionnaire, c'est des reconfigurations à plusieurs échelles, à l'échelle politique, à l'échelle familiale, à l'échelle amicale, à l'échelle artistique, qui ont permis à différentes modalités de conversation, en fait, d'exister sur la scène publique, mais aussi sur la scène privée, en sachant que c'est aussi là que se construisent les reconfigurations qui influent ensuite sur la sphère publique.
Alors, Shehnaz, vous étiez en 2011 sur cette place Tahrir en Égypte. 10 ans plus tard, quel a été l'apport, diriez-vous, pour vous, de cette révolution dans votre cheminement personnel, intime et politique ?
Moi, pour moi, 2011, c'était vraiment comme, oui, comme Floria Biarritz dit, c'était vraiment une libération pour les femmes. Moi, parce que j'ai commencé à lutter depuis 2005, même, on était très peu de femmes à faire des rassemblements contre le pouvoir.
Oui, je ne l'ai pas dit, mais vous étiez blogueuse, donc dès 2005, vous teniez un blog sur les dérives du pouvoir égyptien, et vous avez fait partie du mouvement Kfaya, suffit.
Oui, voilà, donc on était très très peu de femmes, je peux les compter, hein. En 2011, j'étais surprise. Ils avaient des milliers de femmes. Moi, c'était la joie. J'étais très heureuse. Et je voyais que ça, quelque chose, ça arrivait quelque chose. La révolution, elle a fait quelque chose. Elle a libéré beaucoup de filles, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes surtout. Et elles étaient sur la place. Elles étaient partout. Elles étaient là, sous les tentes. Par contre, ce qui était aussi ce que j'ai découvert en 2011, que ça n'a pas changé grand-chose dans la mentalité des hommes. Parce qu'on était, par exemple, le 8 mars 2011, on a essayé de faire une marche des femmes à la place Tahrir à côté. Et on était agressés. Il y avait de violence contre toutes les femmes. Ils ont insulté, ils ont dit oui, je ne veux pas dire le mot, mais voilà. Donc on était insultés, on était même avec des coups, pieds. Donc c'était des jeunes, des hommes qui étaient à la place Tahrir aussi. Donc j'ai vu qu'il y avait un problème encore. C'est pas parce qu'on était à la place que ça y est, que tout est réglé. Et c'est ça que, après, je me suis rendu compte, même que mes camarades, on a lutté ensemble pendant des années. Ils ont commencé à dire « Ah non, non, mais les questions de femmes, c'est pas pour le moment, c'est pas une prioritaire. Non, les... »
D'abord la démocratie.
Oui, voilà, les élections, voilà tout ça. Non, LGBT, c'est pour l'instant, c'est pas le moment, on va perdre des gens, il faut pas parler de ça. Donc j'étais un peu choquée. Mais je me suis rendu compte que oui, voilà, il y a un gros problème. Et après 10 ans, je dis qu'aujourd'hui, c'était un peu naïf, je pense, de ma part, de croire que la révolution, ça va changer quelque chose. Enfin, pour moi, même le changement d'un régime politique, ça ne sert à rien, absolument à rien. Le vrai changement pour moi, c'était quand les femmes, elles ont décidé d'aller sur la place. C'est quand les femmes, elles ont continué à lutter jusqu'à aujourd'hui. Hein. Je vois le potentiel, je vois ce qui s'est passé depuis 10 ans. Je vois comment ces jeunes femmes, aujourd'hui, par exemple, elles parlent ouvertement. Elles n'ont pas arrêté de parler malgré tout, malgré l'oppression de la société et du pouvoir, mais elles continuent. Des jeunes filles qui, même je vais parler des filles de TikTok qui se sont...
On va en parler, oui.
Oui, voilà. Donc voilà, il y a plein de femmes aujourd'hui qui ont... Ça y est, il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ont eu courage. Il n'y a pas de retour en arrière. Elles ont continué aujourd'hui. Je vois la différence.
L'une des particularités des mouvements féministes dans le sillage des révolutions arabes, c'est une intense politisation de l'intime, du corps et de la sexualité. Vous le démontrez chacune. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, Abir. Vous parliez de la question des violences sexuelles qui se sont imposées durant la révolution et ensuite après, et puis la compréhension qu'il y a eu de ces violences faites aux femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les femmes, pas seulement les activistes féministes, mais les femmes qui étaient sur la place, se sont saisies des questions de violences qui leur étaient faites?
Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup insisté tout à l'heure sur des pratiques inhabituelles et improbables en conjoncture ordinaire, s'agissant des rapports de genre. Les révolutions n'ont pas été pour autant des moments enchantés, où l'ordre du genre et les rapports hiérarchiques et les violences contre les femmes auraient été suspendus. Ça, c'est quelque chose sur laquelle on a beaucoup insisté, notamment avec Sarah Barrière, avec qui j'ai dirigé un numéro spécial de la revue Ethnologie française sur genre, crise politique et révolution. Pour le cas égyptien, il y a notamment le travail remarquable de Perrine Lachenal, qui a fait sa thèse sur l'autodéfense au Caire dans le sillage de la révolution. L'autodéfense s'est développée comme une réponse collective des femmes pour s'imposer sur les places publiques. Pourquoi ? Parce que le harcèlement sexuel a été une manière, en quelque sorte, de les chasser de cet espace au moment où elles commençaient à s'y installer. C'est vrai que certaines d'entre elles, elles ont aussi bénéficié du soutien ou de la forme de collaboration avec des hommes militants qui ont considéré que permettre la présence des femmes dans l'espace révolutionnaire, c'était aussi un moyen de sauver la révolution. Alors c'est vrai que de manière générale, les révolutionnaires hommes n'ont pas été particulièrement solidaires en fait des militantes femmes et ou féministes. Certains ont apporté quand même leur soutien. Ce qui s'est beaucoup développé aussi, et c'est ce que montre très bien Perrine Lachenal, c'est que l'offre de cours d'autodéfense s'est beaucoup développée dans le sillage de la Révolution, même si elle était surtout cantonnée au beau quartier du Caire. La politisation de la question des violences sexuelles et ou sexistes envers les femmes, c'est quelque chose qu'on a vu aussi au Maroc et en Tunisie à partir de 2012, à travers notamment deux mobilisations importantes pour la criminalisation du viol. Et ce sont des mobilisations qui s'appuient sur des revendications déjà anciennes, hein, c'est-à-dire qui n'ont pas débuté avec les révolutions. Des féministes des générations précédentes revendiquaient déjà un changement législatif, un changement du code pénal pour qu'il intègre davantage la criminalisation du viol. En 2012, donc deux mobilisations importantes de manière simultanée en fait, et dont les formes sont très similaires et les revendications également très similaires au Maroc et en Tunisie, ont abouti à un changement législatif où le viol a été reconnu davantage comme un crime contre la personne, alors qu'auparavant, il était plutôt interprété et considéré comme un viol contre le groupe familial ou le groupe communautaire.
Est-ce qu'on pourrait dire finalement que ces mobilisations de 2010-2011 dans ces différents pays ont été en quelque sorte déjà une sorte de MeToo inaugural à l'échelle du monde arabe? Parce qu'on dit beaucoup qu'il n'y a pas eu de MeToo ou d'une intensité aussi maximale que ce qu'on a connu ici en Occident. Est-ce que c'est parce qu'il a déjà eu lieu?
Sur cette question du MeToo, en fait, on voit que la politisation des corps dont parlait Abir très justement, c'est aussi un moment en fait qui a permis des nouvelles formes d'émergence de ces paroles. Donc, on peut parler par exemple des tests de virginité qui ont eu lieu pendant les manifestations dont parlait Shahinaz après le 8 mars 2011, où des femmes ont été arrêtées et soumises par l'armée à des tortures, des viols qui ont été nommés des tests de virginité.
Voilà, c'était des femmes, parce que leur tort c'était de ne pas être mariée, d'être célibataire. Voilà,
exactement. Et à la sortie de leur incarcération a été relayée, notamment par Raja Azab, hein, qui à ce moment-là a beaucoup parlé. C'est une blogueuse et militante égyptienne. Et ça a aidé à mettre au devant de la scène ces questions-là, de ne pas les laisser devenir tabous. Les graffitis, au même moment, dans l'espace public, dont des graffitis autour de Samira Ibrahim, qui est une des femmes à qui on a fait subir ces tests de virginité, ont permis de faire débattre, en tous les cas, même dans l'espace public, de ces questions-là. Et par exemple, Pigipédia, c'est une plateforme qui avait été créée au lendemain de la Révolution, de manière aussi anonyme, pour que les gens puissent mettre le visage de leur identifié ou poster le visage de leur tortionnaire, policier ou militaire. Et ça, c'est bien avant le mouvement Balance ton porc. On retrouve avec le mot Pigipédia en plus ce même parallèle. Et ça, ça se passe dans des moments où il n'y a pas eu à attendre que la parole se libère avec le hashtag MeToo pour que les choses bougent. À partir de là, il y a aussi eu depuis quelques temps, des choses dont Shahinaz pourra parler peut-être mieux que moi, un compte, Assault Police, notamment, qui a été monté par une jeune femme de 22 ans, et qui a permis de mettre devant de la scène d'autres sujets, comme des viols, qui jusque-là n'auraient peut-être pas eu autant de visibilité. Donc on voit qu'il y a des initiatives nouvelles, mais qui s'inscrivent aussi, comme le disait Abir, dans des dynamiques de plus long terme, qui ont une profondeur historique, où le collectif permet de mettre en avant des thématiques qui jusque-là n'avaient pas été portées de la même manière.
Je peux juste dire en fait que MeToo, là, on l'a fait en Égypte en 2008 et 2009. On était des blogueuses, des blogueurs, et on a commencé à faire, on a fait une journée pour que les femmes parlent d'harcèlement sexuel, parce que c'est en Égypte, ça date depuis les années 80. Et pour que les hommes aussi disent ce qu'ils pensent de ça, et il y avait des hommes qui ont écrit des lettres pour dire pardon, et des femmes qui ont témoigné sur le blog et sur Twitter. Donc on l'a eu plusieurs fois avant 2011. En 2011, il y avait vraiment, parce que tout le monde regardait la place Tahrir, et ça s'est passé à la place Tahrir, à des femmes aussi qui étaient des journalistes françaises et américaines, je sais pas d'autres, de quel pays d'autres. C'est pour ça que ça a pris un peu une ampleur qui n'était pas, peut-être que les gens, ils n'ont pas pensé à ça avant que ça existait en Égypte. Mais nous, on souffre de ça depuis des années, depuis 30 ans, 40 ans. Et donc voilà, et après la révolution, on a vu le progrès qui s'est passé, que oui, à la place Tahrir, en fait, il y a eu des mouvements des femmes. qu'ils ont commencé, et des hommes aussi, qu'ils ont commencé à protéger les femmes sur la place. Et plus tard, voilà, il y a eu une loi. Mais bon, en Égypte, tu peux faire toutes les lois. Ils ne sont jamais appliqués. Donc voilà, voilà, il y avait des mouvements sur le terrain, plusieurs mouvements. Depuis peut-être 2 ans, on a une vague, enfin 1 an et demi, on va dire, une vague de MeToo en Égypte qui est très forte. Et il y a le compte donc Assaut Police que Floriane a parlé. Il y a aussi une blog anonyme qui est derrière ce blog. Il y a des gens, enfin des femmes, qui en fait qui prend les témoignages des femmes anonymes, pareil, et publie. Et le blog, il est très très lu. Et ils ont aussi une page Facebook. Et ça fait vraiment le buzz en Égypte depuis presque un an et demi. Et on parle de sujets du viol, d'harcèlement sexuel. On a une vision différente aujourd'hui. Donc je pense qu'en Égypte, depuis la révolution, et même avec la dictature aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui s'organisent. Je ne peux pas dire organise, voilà, vraiment, parce qu'on ne peut pas se voir, on ne peut pas se rencontrer. Mais vraiment, sur les réseaux sociaux, et c'est très fort. Et c'est très... je pense que tout ça, ça vient aussi de 2011, en fait.
C'est vraiment le fruit de 2011.
Et c'est très concret. Aujourd'hui, je vois, c'est vraiment ça. C'est le produit de 2011. En fait, ça a commencé en 2011 et ça continue et ça ne va pas s'arrêter, en fait, je pense.
On médiatise, en tout cas, de ce côté-ci, en France, en Occident, beaucoup les luttes contre les violences sexuelles. Mais on parle moins d'autres luttes, des luttes syndicales, ouvrières, qui sont aussi menées par des femmes, parce que là encore, elles se retrouvent en première ligne d'un appauvrissement. Pourquoi c'est moins relayé à Bir ?
Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez structurel. Hein. On peut dire en fait que la sélectivité, le fait que les luttes et les mobilisations des femmes au Moyen-Orient et au Maghreb en fait sont reliées de manière très sélective, et que c'est l'aspiration à la liberté individuelle, à la liberté corporelle et sexuelle notamment, hein, qui fait l'objet d'une médiatisation, alors que les luttes et les mobilisations pour l'amélioration des conditions de travail contre l'arbitraire patronal, ça c'est quelque chose qui est beaucoup moins visible, hein, dans les médias dominants en France, alors que les mobilisations ouvrières et syndicales ont joué un rôle déterminant dans la chute de Ben Ali et de Moubarak, hein, dans les deux pays, et que la création de, enfin, en Égypte par exemple, on a eu la création de très nombreux collectifs syndicaux, de syndicats autonomes avant même la chute de Moubarak. En Tunisie, les mobilisations au sein de l'Union générale tunisienne du travail, donc du principal syndicat, mais aussi avec la création de collectifs syndicaux plus autonomes, plus ou moins liés à l'UGTT, c'est cela en fait qui a permis la radicalisation du mouvement de protestation la généralisation des mouvements, la nationalisation des mouvements qui étaient partis en fait de régions et de localités plus précises. Alors, la question que l'on peut se demander effectivement, c'est est-ce que dans les milieux populaires, les rapports de genre ont fait l'objet ou pas de remise en question ? Ça, c'est quelque chose sur laquelle on a essayé de travailler avec Sarah Barrière quand, en 2016, on a fait une enquête dans la région de Kasserine. Kasserine connaissait à l'époque un grand mouvement social pour le droit au travail et au développement qui a pris la forme de différents sit-ins au siège des autorités locales, hein, donc les sièges des gouvernorats.
Puisqu'on était en Égypte, là, je vous explique, Kasserine, c'est en Tunisie.
Oui, Kasserine, c'est effectivement en Tunisie, et c'est l'un des foyers de la révolution. C'est la deuxième région qui s'est soulevée après Sidi Bouzid. Et ce qu'on a observé, c'est que on voit très nettement l'effet des protestations de 2010 et 2011. C'est-à-dire que dans la ville même de Kasserine, où les mobilisations ont été intensives et massives pendant une durée assez longue, on a eu l'émergence de figures charismatiques femmes qui occupent une place importante dans les mobilisations. La division sexuée du travail militant est beaucoup moins défavorable aux femmes, alors que dans les localités où les mobilisations ont été beaucoup plus ponctuelles, eh bien, en fait, les rapports de genre leur sont beaucoup plus défavorables.
Shaina, vous êtes profondément marquée par la révolution de 2011, la place Tahrir, le souffle de la liberté, mais vous êtes aussi marquée par un événement beaucoup plus récent qui s'est produit en juin dernier, le suicide de la militante lesbienne Sarah Egazi. Pour avoir brandi le drapeau de la cause homosexuelle, cette jeune femme a été jetée en prison, torturée, contrainte à l'exil au Canada, et elle a mis fin à ses jours. Sa mort a été pour vous un choc et un détonateur. Est-ce que vous pouvez nous raconter la prise de conscience qu'elle a entraînée?
Oui, en fait, oui, Sarah, tout ce qu'elle a fait, c'est porter le drapeau gay dans un cancer au Caire. Et du coup, elle était arrêtée, torturée, violée. Et puis, elle a dû quitter le pays, au Canada. Enfin, quand Sarah s'est donné la mort, c'était en juin 2020, donc peut-être moins qu'un an. Et en fait, je pense que pour moi, c'était un événement qui m'a beaucoup marquée. Parce que moi aussi, il y a 10 ans, quand j'étais encore en Égypte, une blogueuse très connue, que beaucoup de jeunes qui me suivent et tout, j'ai eu des... Enfin, il y a une personne même qui m'a demandé, est-ce que, Chahi, tu peux dévoiler ta sexualité? Parce que là, ça va faire... Enfin, ça peut aider beaucoup de gens, ça peut aider beaucoup de jeunes. Et moi, j'ai refusé. J'ai dit non, en fait, j'ai pas envie de faire ça parce que je veux pas être arrêtée parce que je suis lesbienne ou qu'ils me mettent en prison à cause de ça. Parce que j'étais déjà une militante politique. J'ai dit ça va être très dur pour moi. Peut-être militante politique, ça passe. Tout le monde militant peut être arrêté pour ça. Mais pour la sexualité, ça va être très dur pour moi, pour ma famille. Et ça va, je sais pas si je vais supporter ça. Et la mort de Sarah, alors 10 ans plus tard. J'ai un peu culpabilisé, j'ai un peu regretté que j'ai pas fait ça il y a 10 ans, parce que je pensais que peut-être j'aurais pu sauver cette jeune femme, peut-être d'une façon ou l'autre, si elle peut-être elle aurait pas senti seule ou qu'elle était toute seule ou la première à faire ça. Et donc voilà, j'étais un peu, ouais, ça m'a beaucoup, ça m'a frappée, ça m'a réveillée.
Pourquoi c'est si difficile de lutter ouvertement, non seulement pour les droits des femmes, mais encore plus pour les droits des LGBT?
C'est très compliqué en Égypte. Donc les Égyptiens, la société égyptienne, c'est très conservatrice, c'est très religieuse. L'homosexualité, c'est une maladie.
Elle est réprimée, on est dans des pays qui
la réprime. Il n'y a pas dans la loi quelque chose qui dit oui à l'homosexualité illégale, mais en fait, ils arrêtent quand même, parce que voilà, les lois en Égypte, ça ne sert à rien. Mais ils arrêtent tous les gays ou les lesbiennes ou les trans, donc tout le temps, la religion dit qu'il faut les tuer. C'est très compliqué en Égypte, c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est un truc... Il faut être discrète, il faut se cacher tout le temps. Donc voilà, c'est...
Là, à Bir, les sociétés n'ont pas évolué sur ces questions-là, parce que dans le siège des révolutions, et vous le racontez dans le livre, notamment en Tunisie, il y a plusieurs collectifs LGBT qui se sont créés. La lutte existait bien auparavant, mais est-ce qu'elle a aidé la révolution à porter les revendications?
Alors, donc, effectivement, avant la révolution tunisienne, il existait des collectifs informels LGBT, des collectifs informels qui... notamment avaient des formes de solidarité et d'entraide entre eux et entre elles. Des collectifs qui se sont aussi mobilisés conjointement pendant la révolution pour la chute du régime, pour soutenir les protestataires dans les régions soulevées à l'intérieur. Et ce que la révolution a permis, c'est d'une part la formation d'associations LGBT, puisque le champ associatif en Tunisie s'est libéralisé, il s'est en fait ouvert à partir de 2011. On a eu en fait une implosion du nombre d'associations féminines, féministes pour le droit au développement, des associations écologiques. Donc la formation du champ associatif LGBT se situe un peu en fait dans ce contexte d'ouverture générale de l'espace associatif tunisien. Ce qui a permis également que cette question de la dépénalisation des relations sexuelles entre les personnes de même sexe soit politisée, c'est bien sûr la libéralisation du champ médiatique. C'est la libéralisation du champ médiatique parce que c'est une question dont il n'était pas possible de parler jusque-là publiquement. Mais ce qui a joué un rôle majeur, je pense, c'est aussi la formation d'une nouvelle génération militante dans le sillage de la révolution, qui fait l'apprentissage du militantisme au moment où beaucoup de choses semblent désormais possibles et pensables. Et la dépénalisation, auparavant, n'était pas du tout envisagée par les militants comme relevant de l'ordre du possible. C'est cela que la révolution a autorisé, a permis. Et ce qu'il en est résulté aussi, c'est le soutien et la solidarité d'un certain nombre d'associations qui ne sont pas spécialisées sur ces questions, des associations féministes qui sont plutôt formées par des militantes hétérosexuelles, qui ont soutenu notamment à partir de 2015 les revendications des militants LGBT, des professionnels aussi, certains avocats et certains psychologues. Ce qui a abouti aussi au moment de la campagne pour les élections, la dernière campagne des élections présidentielles, est-ce qu'un certain nombre de candidats et de candidates ont soutenu la revendication de la dépénalisation. Donc ça, c'est quelque chose quand même, je pense, qui relève d'une transformation notable.
Est-ce que c'est uniquement valable pour la Tunisie, dont on dit souvent qu'elle est à l'avant-garde, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a pu observer dans les différents pays du monde arabe où les populations se sont soulevées ?
Les choses dépendent en fait des trajectoires des révolutions. C'est-à-dire que en Égypte, par exemple, la restauration autoritaire est tellement forte que c'est l'ensemble du champ associatif féminin, féministe, des droits humains qui est visé par la répression. Et donc, dans ce contexte, bon, bien évidemment, les formes d'organisation des minorités sexuelles et de genre sont très, très difficiles et périlleuses. Dans d'autres cas, en Syrie, au Yémen et en Libye, les situations révolutionnaires se sont transformées en guerre. Je pense que les transformations qu'on observe en Tunisie sont beaucoup dues au fait que c'est là que l'espace associatif s'est pluralisé, que le champ politique également en fait s'est diversifié et le champ médiatique libéralisé.
Chahinaz, en Égypte, du coup, comment on résiste, comment les collectifs font pour résister aujourd'hui sous cette chape de plomb?
Donc, en Égypte, depuis 2011, la communauté LGBT+, ils étaient là, en fait, de façon individuelle. Donc, ils ont participé dans tous les mouvements, les groupes politiques et tout ce qui s'est passé. Il n'y avait pas vraiment un truc très organisé. Par contre, il y a eu, on va dire, des groupes qui se sont organisés, enfin, hors la loi, sans la loi, parce qu'on ne peut pas. Même en Égypte, aujourd'hui, tout est gelé. Hein. Les ONG, c'est gelé. Ils ont gelé tout. Donc, mais il y en a des groupes qui ont continué à faire se regrouper, à appeler eux-mêmes des ONG LGBT+, donc qui existent toujours. Et il y en a qui ont continué à lutter à l'étranger. Par exemple, ici en France, à Paris, moi, je fais partie d'une association LGBT+, qui s'appelle ANR, qui était créée il y a 2 ans sur Paris, donc c'est égyptienne, et c'est pour continuer la lutte pour la communauté LGBT en Égypte. Et voilà, il y a plusieurs comme ça, il y a plusieurs associations comme ça, ou à l'étranger, ou à l'intérieur, mais avec, sans s'afficher, quoi. Voilà.
Est-ce que la violence des contre-révolutions constitue une menace pour tous ces mouvements qui œuvrent pour les droits des femmes, des minorités sexuelles et de genre ?
On voit que la répression pousse les collectifs, ou en tous les cas les militants, à devoir se réinventer dans la façon dont ils font usage des questions qu'elles veulent porter. La répression que vous évoquiez sur les membres de la communauté LGBTQI+, elle est aussi plurielle, elle existe même sur les réseaux des applications. Donc on voit qu'en fait la peur s'est mise, mais dans la sphère intime presque aussi par ces biais-là. Ça ne signifie pas pour autant que les gens n'ont pas une façon de continuer les luttes par d'autres moyens et dans d'autres biais. Je pense notamment à la pluralité des collectifs qui émergent, dont on parlait tout à l'heure. La façon dont les gens ont tendance à se décaler de questions qui étaient explicitement politiques. Donc je parlais des partis, par exemple, qui étaient nés au lendemain de la Révolution et qui sont aujourd'hui un petit peu... on doit s'en détourner parce qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de faire entendre les voix par ce biais sans prendre des risques plus politiques et plus concret. Et on voit que les militants deviennent, ne se revendiquent parfois plus comme militants, continuent à œuvrer pour le changement social à travers, entre autres, les collectifs, mais aussi le monde des arts. Donc ça a été un petit peu un deuxième temps après la Révolution, au moment de la prise de conscience des risques auxquels étaient exposés les partis et les associations. Donc il y a eu un peu ce décalage vers un monde plus informel, de collectif, moins d'associations et artistiques. Mais on voit que là aussi, les choses sont en train de devenir plus difficiles pour ces membres-là. Et y a même un repli vers des fois des sphères encore plus privées que ça, quand on voit que les galeries aussi sont aujourd'hui parfois en déclin, des espaces qui avaient émergé après la Révolution dans un moment d'effervescence collective, et qui par des mesures concrètes de type devoir poser au préalable beaucoup de demandes, et, voilà, écraser les gens sous aussi la paperasse administrative pour pouvoir projeter des films par exemple, on voit que les espaces sont en train de suffoquer, ces deuxièmes espaces qui étaient déjà un moment de repli en fait, de réorientation on va dire. Mais le terreau post-révolutionnaire est quand même solide sur les questions de féminisme et de genre. Les gens se connaissent à présent. Les réseaux matériels et immatériels dont on parlait sont déjà en place. Et donc, il y a quand même cette évidence, c'est que les choses ne vont pas s'arrêter là et que les gens vont continuer à trouver des nouveaux moyens et des nouveaux espaces, des nouveaux interstices pour faire entendre leurs questions à travers notamment des nouveaux formats. C'est pour ça que je parlais du storytelling ou autre, des nouvelles façons d'essayer de continuer à faire entendre à l'échelle nationale leurs questions, aussi en jouant de la visibilité internationale, comme vous le disiez. Ouais. Aussi à travers des projets locaux. On parlait tout à l'heure l'importance aussi de ne pas oublier les autres classes sociales qui existent, qui font aussi partie de ce changement, avec des collectifs par exemple, qui vont peut-être pendant un temps se détourner de questions explicitement politiques, mais vont œuvrer pour l'alphabétisation dans les zones rurales. Je pense aussi, par exemple, à Arasmap, qui est une association qui lutte contre le harcèlement de rue et qui n'est pas du tout que au Caire ou à Alexandrie, et qui a su mettre des antennes un petit peu partout dans l'Égypte, où les femmes sont elles-mêmes aux commandes d'une cartographie en fait des espaces où il y a du harcèlement de rue, et à partir de là les gens interviennent dans ces espaces pour sensibiliser la communauté. Il y a aussi un gros travail qui est fait depuis des années sur la sensibilisation, et on voit que ça c'est des choses qu'on pourra seulement mesurer dans le temps long, mais qui sont une base assez solide pour que ça ne s'arrête pas avec les contraintes imposées par la répression qui est forte.
Et parlant de la haine aussi, quand Sarah s'est donné la mort, on a eu une vague de la haine et de violence sur les réseaux sociaux, mais c'était horrible dans le contenu arabe, bien sûr. Et on a essayé de contacter Facebook pour voir comment on peut arrêter ça, parce que ça a poussé beaucoup de jeunes, beaucoup de gens dans la communauté LGBT en Égypte, qui ont essayé de se suicider parce qu'ils étaient dans un état très difficile. Donc on a essayé de contacter Facebook, trouver une solution, mais c'était pas, on n'a rien, enfin ça n'a rien fait.
Ça n'a pas réussi.
Et ça continue en fait. Il y a vraiment beaucoup de haine sur les réseaux sociaux contre le LGBT+, dans le contenu arabe surtout, parce que je ne sais pas en fait si... c'est différent peut-être pour les autres contenus d'autres langues, mais c'est vraiment horrible, c'est très difficile pour beaucoup de gens, enfin en Égypte, je pense dans le monde arabe.
Vous restez optimiste ?
Bien sûr, je suis optimiste, ouais. Je suis optimiste parce que je vois ce qui vraiment me donne beaucoup d'espoir, c'est le mouvement des femmes aujourd'hui. Je vois, je participe et ça me fait plaisir vraiment. On a même des pages, on va dire des memes qui sont féministes aujourd'hui, ça veut dire qu'ils mettent des blagues sur les hommes d'une façon très féministe. Ça c'est nouveau, hein. C'est très marrant, c'est très égyptien, c'est très rigolo. Et ça, au bout de la page a été créée il y a un mois ou deux mois, et aujourd'hui on a beaucoup d'audience. En fait, je vois la page, elle est partagée tout le temps et tout. Donc vraiment, il y a des trucs qui se passent. Ça me donne. Et je sais que c'est ça, c'est l'effet de 2011. Je sais très bien que c'est l'effet de 2011.
Abir, pour vous, au-delà de la violence des contre-révolutions, qu'est-ce qui pourrait causer une menace pour la cause des femmes, mais aussi des LGBTQI+ ?
Alors, ce qui constitue une menace évidente, à part les restaurations autoritaires et les guerres, c'est aussi la dégradation de la conjoncture économique, la baisse du pouvoir d'achat des classes populaires et des classes moyennes. Alors, on dit souvent que les révolutions, en fait, ont abouti à cette détérioration. Mais en réalité, c'est plutôt l'inverse. C'est parce que les conditions matérielles étaient déjà mauvaises que les raisons de la colère, en fait, se sont formées aussi, donc, enfin, chez la jeunesse et au-delà, contre ces conditions économiques dégradées. Ce qu'on a vu pendant la révolution, donc, c'est l'aspiration à la liberté, à l'autonomie corporelle et sexuelle chez de nombreuses femmes, donc, qui souhaitent aussi se déplacer, voyager, avoir des loisirs, vivre indépendamment de leurs parents. Mais tout cela ne peut être rendu possible que par des ressources économiques et des ressources économiques stables. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'après les indépendances en Égypte et en Tunisie, il y a eu l'étoffement, la création et l'étoffement du secteur public, notamment dans l'éducation et la santé, qui a permis à de nombreuses femmes des classes moyennes d'avoir un travail, un salaire stable, etc. Et c'est quelque chose qui est fortement menacé avec les politiques d'ajustement structurel et avec les politiques libérales et d'austérité qui ont été adoptées depuis la fin des années 70.
Et qui est aggravée par la pandémie que nous vivons.
Et qui est aggravée par la pandémie, qui est aggravée aussi par le service de la dette, hein, par le service de la dette qui, en fait, grève considérablement le budget de l'État. Le service de la dette, à lui seul, représente 30% du budget de l'État tunisien pour l'année 2021.
Merci, merci Abir, merci Shahinaz. Merci Florie, merci à toutes les trois de nous avoir éclairés et de l'importance de mobiliser une approche par le genre dans les travaux de recherche aujourd'hui pour comprendre l'impact, l'apport de tous ces soulèvements populaires à la fois dans les pays du monde arabe mais aussi à travers le monde entier. Je renvoie donc à votre prochain ouvrage qui sortira quand, cet ouvrage que vous coordonnez, Abir, Le genre en révolution?
Alors, c'est un ouvrage que je coordonne avec Sarah Barrière et Amélie Lerenard. En fait, c'est un ouvrage qui est en cours d'évaluation actuellement. Donc, on espérait le sortir pour cette année à l'occasion des 10 ans des révolutions. Mais ça n'a pas été possible du fait de la pandémie, en fait, et de la déstabilisation des calendriers des éditeurs. Il est dans les tiroirs d'un éditeur, en fait. Donc, voilà, on espère qu'il sortira
en 2021. Au maximum,
l'année prochaine, en fait.
En 2022.
En 2022.
D'accord. Merci. À très bientôt pour un nouveau numéro de La Révolution féministe sur Mediapart.